Maintenant, je vais vous présenter la conférencière de ce soir, Alicia Sanchez-Mazas. Elle est généticienne, professeure titulaire au laboratoire de génétique et biométrie du département d'anthropologie et écologie à l'Université de Genève. Pour son parcours, elle est docteur S sciences à l'Université de Genève, professeure titulaire au laboratoire de génétique et biométrie du département d'anthropologie et écologie à l'Université de Genève. Pour sa spécialité, Alicia Sanchez-Mazas s'intéresse à la génétique des populations humaines, à l'anthropologie biologique et à la reconstruction de l'histoire du peuplement du monde par l'homme moderne depuis son origine. Elle travaille sur l'analyse des populations à l'échelle mondiale. Pour sa bibliographie, elle a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Elle est co-auteure du livre de l'exposition scientifique « Tous parents, tous différents » et d'un livre scientifique interdisciplinaire sur l'histoire du peuplement de l'Asie orientale. Elle est membre du comité d'édition de la revue scientifique internationale « Human Biology ». Je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat de 20 minutes avec le public. Merci.
Merci. Mesdames et messieurs, je suis très contente de partager avec vous ce soir ces quelques instants qui sont destinés à regarder l'espèce humaine d'un regard assez particulier qui est celui de la génétique. Comme l'indique le titre de ma conférence, Génétique et population, je vais essayer de vous raconter comment, en étudiant l'histoire, en étudiant les populations humaines actuelles, il est possible de reconstituer leur passé. L'histoire du peuplement du monde par notre espèce est probablement le phénomène de globalisation le plus ancien qu'ait connu notre espèce, raison pour laquelle je me trouve ici devant vous ce soir à vous parler de génétique dans un cycle de conférences consacré à la globalisation. Eh bien, nous allons réaliser un petit voyage à la fois dans l'espace, qui est le globe, et dans le temps. Et comme point de départ, nous allons partir des populations humaines actuelles, comme celles que vous pouvez voir sur cette diapositive. Vous constatez dans cette population une importante diversité humaine au sein même d'une population unique. Cette diversité, nous pouvons l'explorer également sur le plan génétique. C'est l'aboutissement d'un long chemin qui a toujours suscité notre curiosité, car nous nous sommes posé la question depuis longtemps, qui sommes-nous, d'où venons-nous ? Quelles sont les bases de nos différences, quelles sont les bases de nos ressemblances. Pour répondre à ces questions, il y a différentes approches possibles. L'une d'entre elles, non négligeable, et dont je parlerai un petit peu dans cet exposé, consiste à aller fouiller au fond du sol pour essayer d'y retrouver, si nous avons de la chance, les vestiges directs de nos passages sur cette Terre, c'est-à-dire des fossiles, vestiges qui sont très importants car ils marquent notre passage sur cette Terre à la fois dans le temps et dans l'espace. Mais ce n'est pas le seul moyen de répondre à ces questions. Un autre moyen, c'est aussi de regarder au fond de nous-mêmes, de nos chromosomes, de nos gènes, car eux aussi contiennent les vestiges de nos lointains ancêtres. J'ai parlé de chromosomes et de gènes, et je tiens à préciser avant tout en quoi consiste, enfin à rappeler brièvement en quoi consistent ces termes. Les briques qui constituent notre organisme, ce sont ces milliards de cellules, 60 000 milliards pour donner un ordre de grandeur, qui constituent nos organes, nos tissus, ou qui circulent dans notre sang. Chacune de ces cellules possède un noyau, et à l'intérieur de ce noyau, vous avez ces petits bâtonnets que l'on peut observer à fort grossissement, et qui sont nos chromosomes, porteurs de notre information génétique, porteurs de nos gènes. Chacune de nos cellules contient 23 paires de chromosomes, à l'exception des cellules sexuelles, les ovules et les spermatozoïdes, qui contiennent un représentant de chaque paire, les paires complètes rétablissant au moment de la fécondation. Ces chromosomes, il est possible de les dérouler. Ce sont des amas enchevêtrés, et si l'on les déroule, eh bien, on va trouver la molécule d'ADN que vous connaissez bien, qui est une double hélice, qui va porter le message codé, qui va programmer toutes les fonctions vitales de notre organisme, ainsi que l'architecture de notre organisme, de notre corps. Ce message codé, il est possible de le lire par des moyens très sophistiqués, dont vous avez une représentation ici. Il s'agit de lire l'agencement de 4 lettres de l'alphabet ATGC et d'essayer de déchiffrer le sens des mots contenus dans cet ADN. Vous avez probablement entendu parler récemment du déchiffrage complet du génome humain. Eh bien, effectivement, on a lu ou on est en train de terminer la lecture des 3,5 milliards de lettres de l'alphabet qui constituent notre génome. Eh bien, qu'avons-nous appris grâce à cette étude ? Je dois d'abord préciser que si nous avons lu complètement ce code génétique humain, nous ne l'avons pas encore compris complètement. Évidemment, maintenant, tout le travail de décodage réel, c'est-à-dire de comprendre le sens de ce code, reste à faire. Mais néanmoins, nous avons quelques résultats spectaculaires. Par exemple, nous avons estimé seulement à 30 000 le nombre de gènes fonctionnels dans l'espèce humaine, alors que ce chiffre était estimé à l'ordre de 100 000 ou même 120 000 à 140 000 pour les estimations les plus extrêmes qui en avaient été proposées antérieurement. Donc, deux fois plus de gènes seulement que la mouche du vinaigre, comme les médias l'ont écrit récemment. Mais encore d'autres résultats, donc la complexité de notre organisme ne réside peut-être pas justement dans le nombre de gènes fonctionnels, mais bien plutôt dans son organisation et dans la manière dont cette information génétique est régulée, dans les régulations. Et à ce propos, des études récentes ont montré, ont définitivement aboli ce qu'il y a une vingtaine d'années était considéré comme le dogme central de biologie moléculaire, à savoir qu'on prétendait qu'un gène particulier codait pour une seule protéine. Eh bien, cela est complètement faux. Et on estime à l'heure actuelle qu'entre 40 et 60% de nos gènes chez l'humain peuvent être déchiffrés de plusieurs manières différentes pour donner des produits qui sont fonctionnellement différents. Ce qui évidemment nous montre que nous avons quand même énormément appris, dans la complexité et dans ce qu'il nous reste à faire dans les études du génome à l'avenir. Cette introduction sur le génome humain nous permet maintenant d'aborder la question de la place de l'homme parmi les primates d'un point de vue de la génétique. Le généticien est en quelque sorte un petit peu un trouble-fête. Ça fait longtemps qu'on lui a dit que ses plus proches cousins étaient les grands singes anthropoïdes, les singes sans queue qui se trouvent à la fois en Afrique comme le chimpanzé et le gorille, mais également en Asie comme l'orang-outan. Le généticien a voulu vérifier par lui-même si on lui disait la vérité par ses techniques de déchiffrage de l'ADN. Et ce qu'il a trouvé comme résultat a été assez surprenant, car en fait, il a découvert que le plus proche cousin du chimpanzé était l'homme. En d'autres termes, l'homme est plus proche du chimpanzé que des autres grands singes, mais le chimpanzé est également plus proche de l'homme que des autres grands singes. Ceci, évidemment, a été démontré par la génétique. Un des travaux les plus récents à ce sujet date du mois dernier, dans le numéro du mois de juin de la prestigieuse revue PNAS, revue internationale, où l'équipe du professeur Maurice Goodman a démontré que les patrimoines génétiques, il existait 99,4% d'homologie de séquences d'ADN entre l'homme et le chimpanzé, 99,4%. Et cette estimation a été obtenue à partir de la comparaison d'un ensemble de 97 gènes et confirme en quelque sorte ce qui avait été obtenu auparavant à partir de techniques d'hybridation de l'ADN qui avaient fourni un résultat à peu près semblable. Évidemment, nous n'irons pas jusqu'à affirmer, comme le font ses auteurs, qu'il faut replacer le chimpanzé à l'intérieur du genre Homo. Une telle classification est complètement arbitraire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la génétique a complètement bouleversé l'ordre des embranchements dans la généalogie de ces quatre genres de primates. Reste à savoir, bien entendu, reste à comprendre comment il se fait que moins de 1% de différences génétiques entre l'homme et le chimpanzé soient responsables de telles différences sur le plan morphologique, comportemental et cognitif entre les deux espèces. Une partie de la réponse peut être comme je l'ai mentionné tout à l'heure, réside dans la complexité de notre génome au niveau de ces régulations. Et j'aimerais citer à ce propos une étude également récente de l'équipe de Svante Pebe de l'Institut Max Planck à Leipzig, qui a montré que l'homme, les protéines produites par le cerveau humain étaient en nombre beaucoup plus important que les protéines produites dans le cerveau du chimpanzé, ce qui n'est pas le cas si l'on regarde les protéines produites au niveau du sang, par exemple, entre les deux espèces. Donc, il existe des pistes qui permettent éventuellement d'interpréter ces différences génétiques entre l'homme et le chimpanzé au niveau des régulations et de la production des produits des gènes. Quoi qu'il en soit, l'homme ne descend pas du singe car l'homme est un singe. Et il faut se défaire de cette vision que l'on voit un petit peu trop souvent, un peu partout dans la ville, celle qui représente le chimpanzé qui se redresse progressivement pour devenir un homme. Il faut la remplacer définitivement par une arborescence entre les deux espèces à partir d'un ancêtre commun qui daterait d'environ 6 millions d'années. 6 millions d'années, c'est un âge qui est avancé à la fois par les généticiens sur la base des comparaisons des séquences d'ADN, par exemple, comme je l'ai mentionné. C'est aussi un âge qui est avancé par des paléontologistes sur la base de restes fossiles qui montreraient des caractères mosaïques entre l'homme et des primates, comme ces découvertes qui ont été faites récemment par l'équipe de Brigitte Senu et Martin Pickford, Aurorin Tugenensis, qui présenterait au Kenya, qui est daté de 6 millions d'années, et qui présenterait certains caractères mosaïques au niveau de la dentition, par exemple, mais aussi au niveau des membres, suggérant par là qu'il y aurait un mode de locomotion mixte entre la bipédie et une vie arboricole pour ces individus. Il faut être très prudent néanmoins parce que ces restes sont très fragmentaires et évidemment les interprétations de ces fossiles sont très très controversées. Quoi qu'il en soit, il faut situer l'origine commune entre l'homme et le chimpanzé environ il y a 6 millions d'années. Et 6 millions d'années, c'est un temps très très long par rapport à l'apparition de notre espèce qui, elle, daterait de quelques 100 000 ans. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous pouvez essayer d'imaginer que 6 millions d'années représentent une heure de temps. À ce moment-là, Homo sapiens sapiens, qui est l'homme anatomiquement moderne comme nous, n'apparaîtrait qu'à la 59e minute. Cette 59e minute, nous allons quand même nous y intéresser parce que c'est pendant cette 59e minute que le peuplement du monde par l'homme moderne a eu lieu. Pour rester dans le sujet, je dirais quelques mots encore sur les restes fossiles concernant cette fois notre propre espèce, Homo sapiens sapiens. Récemment, dans le numéro du mois de juin de la revue Nature, ce numéro a publié les découvertes de plusieurs crânes humains en Éthiopie qui seraient datés entre 160 000 et 154 000 ans. Tim White et son équipe ont suggéré par là qu'il s'agissait des premiers humains découverts à ce jour, ce qui entraînerait une apparition de l'homme moderne en Afrique, et en l'occurrence en Afrique de l'Est. En réalité, les fossiles qui ont été découverts en Éthiopie présentent des caractères très primitifs et pour le moment ne sont pas du tout à placer dans l'espèce Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire vraiment l'homme anatomiquement moderne comme nous, mais plutôt dans une espèce antérieure qui serait un Homo sapiens archaïque. Ces découvertes récentes donc ne bouleversent pas le scénario qui a été proposé jusqu'à présent sur les origines de l'homme moderne. Quand je dis homme moderne, c'est Homo sapiens sapiens, qui suggère que l'homme serait apparu quelque part entre l'Afrique et le Proche-Orient, étant donné qu'il y a des fossiles d'un âgé âgés d'environ 100 000 ans, aussi bien en Afrique qu'au Proche-Orient. En Afrique, il faut citer par exemple le fossile de Monkey Beach en Éthiopie, ou les fossiles de Clasius River Mouth ou Border Cave en Afrique du Sud. Mais au Proche-Orient, on a les fossiles de Skoul et Kavzé. Si l'on tient compte des marges d'erreur de datation entre ces différents spécimens, à ce moment-là, on peut considérer qu'ils sont à peu près contemporains et que ce seraient les plus anciens découverts à ce jour. Plus tard, on va trouver des fossiles comme en Asie, un fossile ancien peut-être daté à 67 000 ans en Chine, au site de Liujiang, ou les fossiles du lac Mungo à 60 000 ans en Australie, bien que cette date soit aussi fortement controversée. Et puis, si l'on regarde le monde occidental, on aurait plutôt des fossiles âgés de 40 000 à 30 000 ans pour l'Europe en général, comme la femme de Cro-Magnon, qui est beaucoup moins célèbre que son compatriote masculin, l'homme de Cro-Magnon, malheureusement. Mais on a également des fossiles peut-être datés à 50 000 ans en Afrique du Nord et un fossile en Crète qui serait également daté de 50 000 ans. Donc voilà pour vous dresser un petit peu un inventaire très très sommaire des vestiges humains modernes les plus anciens. Pour la plupart des paléontologistes, le scénario de l'histoire du peuplement du monde par l'homme moderne est donc le suivant, c'est celui d'imaginer une origine unique de l'homme moderne, quelque part entre l'Afrique et le Proche-Orient, et des migrations consécutives dans le reste du monde, ces migrations qui auraient remplacé, c'est un scénario qu'on appelle le scénario spéciation-remplacement, qui aurait remplacé les populations préhumaines déjà en place. Effectivement, l'homme moderne n'a pas conquis des terres vierges dépeuplées. Il s'est retrouvé nez à nez, si on peut dire, avec des populations préhumaines, Homo erectus, Homo sapiens archaïque. Évidemment, il est impossible de vérifier sur des fossiles que ces types humains étaient des espèces différentes ou non. D'ailleurs, les limites entre ces espèces sont très floues, parfois arbitraires. Mais disons que c'est le scénario qui fait la presque quasi-unanimité des paléontologistes. Pour quelques paléontologistes, néanmoins, il y a un scénario, un autre scénario qui est proposé, qu'on appelle le multirégionalisme, qui propose plusieurs origines indépendantes de l'espèce humaine dans plusieurs continents. Néanmoins, ce scénario ne permet pas d'expliquer comment Homo erectus a pu accéder à un stade Homo sapiens identique de façon simultanée et indépendante dans plusieurs continents. Et puis on peut imaginer toutes sortes de scénarios intermédiaires, évidemment, comme des scénarios qui proposent l'hybridation de l'homme moderne avec des populations préhumaines qui étaient déjà en place. Revenons maintenant un petit peu à la génétique et parlons maintenant de variabilité génétique humaine. Je citerai dans cette partie de mon exposé trois noms, trois grands noms de scientifiques, parmi d'autres évidemment, deux Américains et un Français. Le premier est Luca Cavalli-Sforza, qui est en fait Américain d'adoption puisqu'il est d'origine italienne. Et il est établi depuis très longtemps à l'université de Stanford aux États-Unis. C'est un homme d'une grande lucidité qui, déjà dans les années 60, a remarqué que les différences génétiques entre les populations humaines reflétaient, en fait, portaient un message historique. Un exemple célèbre, celui des proportions rhésus plus, rhésus moins dans le monde. En fait, ces proportions rhésus plus, rhésus moins ne varient pas de façon aléatoire à travers le monde, mais on remarque qu'elles se présentent sous forme de gradient allant d'est en ouest et du nord au sud. Vous pouvez le voir ici. Le groupe rhésus moins, si vous voulez, est très fréquent en Europe et va diminuer en fréquence lorsque l'on se dirige vers l'Afrique et surtout lorsque l'on se dirige vers l'Asie orientale, les individus rhésus moins étant rarissimes en Asie orientale, en Océanie ou en Amérique, l'Amérique n'étant pas représentée ici. À partir d'informations similaires, mais relatives à bien d'autres gènes de groupes sanguins, Cavalli-Sforza a toujours, dans les années 60, proposé un arbre qui représente en fait les apparentements génétiques moyens pour un ensemble de populations du monde entier. Cet arbre, c'est simplement une technique de classification qui regroupe successivement les populations en fonction de leur degré d'apparentement génétique. Il a remarqué, en examinant cette structure, que les populations européennes se regroupaient d'abord avec les populations proche-orientales, puis ensuite avec les populations africaines. D'un autre côté, on avait les populations asiatiques qui se regroupaient avec les populations d'Océanie et d'Amérique. Et à partir d'un arbre comme ça, il a proposé que les populations humaines actuelles dérivaient d'une origine commune, unique, et c'était d'abord scindé en un groupe occidental, donnant ultérieurement les populations d'Europe, du Proche-Orient et d'Afrique, et en population orientale, donnant ultérieurement les populations d'Asie, d'Amérique et d'Océanie. Donc à partir de cette étude-là, déjà dans les années 60, Cavalli-Sforza avait proposé donc une histoire du peuplement du monde par l'étude de certains gènes particuliers. Un autre scientifique important sur cette scène scientifique, c'est Richard Lewontin, qui est professeur de zoologie à l'Université de Harvard et auteur de nombreux livres, notamment sur la diversité génétique des populations humaines. En 1972, Richard Lewontin a obtenu un résultat fondamental à partir de l'étude des variations d'une vingtaine de protéines entre les populations humaines. Si l'on considère la variabilité génétique totale entre individus de tous les continents, la proportion qui reflète les variations génétiques entre individus à l'intérieur des populations est de 85%. Par contre, la proportion qui reflète les différences génétiques entre individus de populations différentes et entre les continents est seulement de 15%. Depuis, plus récemment, un autre chercheur, Guido Barbujani, de l'Université de Ferrare en Italie, a obtenu des résultats similaires, même identiques, en examinant les variations donc génétiques totales, intrapopulationnelles et interpopulationnelles pour un grand nombre d'autres gènes, étudiés cette fois directement au niveau de l'ADN. Il ne s'agissait plus cette fois seulement de protéines étudiées au niveau du sang, mais de systèmes génétiques de l'ADN. Ce résultat est important car il défie certaines visions populaires qui considèrent l'existence de plusieurs races humaines biologiquement homogènes et très distinctes entre elles. En fait, la génétique a jeté là un pavé dans la mare et si l'on considère un découpage de l'humanité en races distinctes, eh bien, cela ne correspond pas à une réalité biologique, puisque la diversité la plus importante se trouve à l'intérieur des populations et non pas entre les populations humaines. Je citerai maintenant, ces 15%, évidemment, nous allons nous poser la question de savoir ce que représentent ces 15% de diversité génétique observée entre les populations humaines. Et là, j'aimerais parler d'un troisième scientifique français, cette fois, qui a contribué à comprendre ce résultat, et qui est Gustave Maléco. Gustave Maléco a énormément contribué au développement mathématique de la génétique des populations pendant toute la deuxième partie du XXe siècle. Notamment, parmi tant d'autres modèles, il a proposé le modèle de l'isolement par la distance. Sous ce modèle, si l'on considère un ensemble de populations spatialement distribuées qui échangent des migrants entre elles, eh bien, on s'attend à ce que la distance génétique entre les populations augmente progressivement, avec la distance géographique qui les sépare. C'est en fait ce que l'on va observer pour l'espèce humaine en étudiant un grand nombre de systèmes génétiques. Et je vais tâcher d'illustrer cela, qui paraît peut-être compliqué à premier abord. Je vais tâcher d'illustrer cela par quelques figures. Vous voyez un graphique hein, qui représente ici les variations de fréquence des variantes du système HLA dans un grand nombre de populations humaines. Le système HLA, c'est le système majeur d'histocompatibilité qui est responsable du rejet des greffes d'organes. Il est possible d'étudier les variations de ce système génétique à l'échelle des populations. La deuxième figure représente une carte géographique avec le contour des continents. Et si l'on considère que ces 15% de variations entre les populations reflètent les différenciations géographiques des populations au cours de l'histoire du peuplement du monde, eh bien, on s'attend à trouver des correspondances entre ces deux figures. Est-ce que l'on trouve des correspondances? Eh bien oui, évidemment, sinon je ne serais peut-être pas là à vous parler. Il faut pour cela passer par le calcul de distance génétique entre populations. Ces distances génétiques, il est facile de les représenter par différentes techniques sous forme de projection sur un plan bidimensionnel, par exemple. Donc c'est une carte génétique qui représente les distances entre les populations humaines. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les noms de cette carte, mais la question est de savoir si elle correspond à, si elle peut refléter des différenciations géographiques. Eh bien, on se rend compte qu'on peut très bien superposer la carte génétique sur une carte géographique, et qu'on a toutes les chances de, toutes les raisons de penser donc que ces 15% de variations reflètent effectivement les différenciations géographiques des populations à travers le monde au cours de l'histoire du peuplement humain. Ce résultat peut vous paraître assez peu spectaculaire, et cependant, il contredit des images que l'on se fait parfois à propos de des représentations que l'on se fait parfois à propos de la diversité humaine, et qui sont les suivantes. C'est si l'on considère cette fois des caractères biologiques visibles, comme les variations morphologiques ou les variations pigmentaires entre les populations, on aurait tendance à regrouper une population du Sénégal, par exemple, avec une population d'Océanie, de Nouvelle-Guinée, sur la base des couleurs de peau. De la même manière, toujours sur la base des ressemblances de couleurs de peau, on va regrouper les populations européennes avec des populations de Chine du Nord, par exemple. Or, ce que nous dit la génétique ne confirme pas du tout ce type de regroupement. Au contraire, ce que nous dit la génétique, si je remets les populations à leur place sur la carte génétique et géographique, eh bien, je vais retrouver les populations du Sénégal qui vont se trouver proches génétiquement de la population suisse, enfin ici suisse, hein, parce que j'ai choisi un Suisse pour représenter la population européenne. Et en même temps, nous allons retrouver les Chinois du Nord près des populations papoues d'Océanie. Et donc, ce regroupement, lui, correspond à une réalité mesurée par les ressemblances génétiques entre les populations. Comment expliquer cette contradiction apparente entre les regroupements basés sur les caractères morphologiques et les regroupements basés sur les caractères génétiques? Eh bien, la réponse est relativement simple, dans le sens où les gènes vont être vraiment des marqueurs, des apparentements généalogiques entre les populations, alors que les caractères morphologiques, comme les couleurs de peau, vont refléter les adaptations des populations aux environnements qu'elles ont habités au cours de la préhistoire. Ce que je viens de raconter, en effet, explique très bien que les populations à peau foncée vont se retrouver dans les zones intertropicales, quel que soit le continent habité. Et donc, il s'agit d'adaptations convergentes et ne reflètent pas les liens de parenté réels entre les populations. Les populations humaines sont donc interconnectées sous la forme d'un réseau génétique qui suit la géographie. Et dans ce réseau génétique, on identifie maintenant, par l'étude de nombreux gènes, que les populations situées en Afrique de l'Est et au Proche-Orient sont les plus diversifiées au niveau de la diversité entre les individus, sont les plus diversifiées génétiquement. Ceci nous amène à supposer que les populations habitant actuellement l'Afrique de l'Est et le Proche-Orient auraient un patrimoine génétique très représentatif d'une population ancienne dans laquelle on trouverait la majorité des variantes génétiques retrouvées à l'heure actuelle dans le monde et à partir duquel tous les patrimoines génétiques des populations se seraient différenciés au cours de la préhistoire. Et ce scénario, évidemment, rejoint celui que j'ai mentionné tout à l'heure, basé sur la paléontologie, qui stipule une origine unique de l'espèce humaine dans une région située entre l'Afrique de l'Est et du Proche-Orient, et le Proche-Orient avec des migrations dans le reste du monde. Mais évidemment, la génétique ne s'arrête pas là, et je parlerai dans la suite de mon exposé de deux types de résultats différents qui ont été obtenus plus récemment. Le premier, c'est des résultats relatif à la reconstruction de généalogie de gènes. Et le deuxième, c'est les approches actuelles multidisciplinaires sur l'histoire du peuplement du monde. Parlons d'abord des généalogies de gènes. À partir de la fin des années 80, on a beaucoup entendu parler d'un petit organite cellulaire qu'on appelle la mitochondrie, qui est présente dans les cellules et qui intervient dans le métabolisme énergétique des cellules. Ces mitochondries ont la particularité de posséder un fragment d'ADN qui ne va être transmis que par les femmes. Pourquoi ? Parce que les ovules vont contenir les mitochondries destinées au futur nouvel embryon, alors que les spermatozoïdes, au moment de la fécondation, ne transmettent que le matériel génétique du noyau. C'est la raison pour laquelle cet ADN mitochondrial, tel qu'on l'appelle, n'est transmis que par les lignées maternelles. À la fin des années 80, on s'est donc beaucoup intéressé à cet ADN et une équipe de chercheurs américaine a proposé une reconstruction, une comparaison de l'ADN mitochondrial d'un certain nombre d'individus de toutes les origines et a proposé un arbre qui est l'arbre de regroupement. C'est une arborescence, comme tout à l'heure, qui, à la différence de tout à l'heure, est un arbre de molécules, c'est-à-dire que les extrémités de chacune des branches représentent en fait des molécules, chaque extrémité représente une molécule présente chez un individu, et non pas des populations, comme tout à l'heure, comme vous avez pu le voir dans l'arbre reconstruit par Cavalli-Sforza. Donc ici on parle de phylogénie moléculaire, hein, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, c'est une généalogie de gènes. Très rapidement, après la publication de ces résultats, il y a eu de nombreuses critiques qui ont été formulées, tant au niveau méthodologique qu'au niveau de l'interprétation de ces résultats, car ces auteurs avaient prétendu démontrer l'origine africaine sur une base génétique de l'homme moderne en remarquant ou en proposant que la molécule d'ADN mitochondrial ancestral à toutes les molécules d'ADN mitochondrial trouvées aujourd'hui chez les individus avait été portée par une femme existante en Afrique il y a 200 000 ans. Il y a eu beaucoup de critiques, mais ces critiques n'ont malheureusement pas été considérées, car ces résultats ont été immédiatement repris par les médias avec des titres très médiatiques utilisant notamment des images bibliques comme l'image biblique d'Ève, génétique Ève, notre mère africaine, etc. etc. Ce qui fait que bon, c'est une théorie parmi tant d'autres, il faut bien se dire cela, et pourtant elle a été énormément diffusée. Et néanmoins, est devenue la théorie dont vous avez peut-être entendu parler, Out of Africa, quand ce n'était pas la théorie de l'Ève africaine, tout simplement. Pourtant, depuis la publication de ces résultats, d'autres variantes de théories, si je peux dire, ont été proposées, comme vous pouvez le voir sur ces découpages de titres d'articles scientifiques, dont certaines de ces théories n'ont parfois plus rien à voir avec la théorie originale. Je vais revenir tout à l'heure sur certaines critiques, enfin c'est la confusion qu'ont suscité ces études, mais je parlerai d'abord d'une autre d'une autre molécule qui est le chromosome Y. Évidemment, on a cru trouver Ève, maintenant il faut aller à la recherche d'Adam. Donc on va rechercher cela dans le chromosome Y. Pourquoi le chromosome Y? Car c'est un chromosome qui n'est transmis, lui, que par les hommes, que de père en fils, étant donné que c'est le chromosome qui définit le sexe génétique masculin. Des chercheurs américains aussi ont proposé aussi ce type de reconstruction phylogénétique, donc des arbres de gènes identifiés sur le chromosome Y, et ont proposé une de ces études a proposé une phylogénie qui a immédiatement défrayé la chronique à nouveau, puisque ces chercheurs ont proposé que les molécules ancestrales à toutes les molécules de chromosome Y actuelles avaient été portées par un Africain. Donc les résultats semblaient rejoindre ceux fournis par l'ADN, par les études de l'ADN mitochondrial. Le seul petit bémol dans l'histoire, c'est que l'âge estimé pour le chromosome Y était de 59 000 ans et non pas de 200 000 comme l'ADN mitochondrial, ce qui fait que Adam et Ève, dans le fond, ne se seraient jamais rencontrés. Maintenant, pour parler un petit peu plus sérieusement, ces études soulèvent en fait deux problèmes, enfin un problème surtout fondamental et qui sème beaucoup de confusion dans les esprits. C'est celui des généalogies des gènes par rapport aux généalogies de population. L'histoire humaine est unique et nous considérons que notre histoire généalogique est unique. Donc nous cherchons, pour reconstituer l'histoire du peuplement humain, à reconstituer une généalogie unique. La question est de savoir, est-ce que ces généalogies de gènes sont capables de décrire la généalogie unique de l'espèce humaine? Voilà la généalogie des populations, enfin une représentation. Eh bien, la réponse est non. Les deux généalogies ne correspondent pas. En fait, les généalogies de gènes sont imbriquées dans celles des populations. Je m'explique. Par exemple, vous avez sur cette image une généalogie de population et à l'intérieur, vous avez une généalogie de gènes. C'est tout à fait un exemple tout à fait fictif. Mais un gène à l'intérieur d'une seule population peut subir une mutation et se différencier. Cela crée un embranchement. Et cet embranchement ne correspond pas ici à un embranchement entre populations. C'est un embranchement de gènes à l'intérieur d'une même population. Un autre exemple, c'est qu'un gène peut être transmis d'une population à une autre par migration, simplement. Donc deux populations peuvent se retrouver avec certains gènes identiques, ce qui ne veut pas dire que ces populations sont étroitement apparentées. En fait, elles ont pu simplement échanger des migrants, mais avoir des origines très très différentes entre elles. Cela vous montre qu'une généalogie comme la généalogie de l'ADN mitochondrial n'a aucune chance, en fait, de représenter exactement la généalogie de l'espèce humaine. Une autre remarque qui découle de la première, en fait, c'est que des gènes différents vont avoir des histoires généalogiques différentes. Et je prendrai là un exemple tout à fait fictif, qui est celui d'une phylogénie, donc reconstituée pour le chromosome Y et l'ADN mitochondrial. C'est une généalogie totalement fictive entre trois individus choisis totalement aléatoirement dans la population franco-suisse. Ces trois individus peuvent avoir un ADN mitochondrial qui remonte à Madame de Staël, dont l'ancêtre commun serait la molécule portée par Madame de Staël. Et ces trois individus peuvent aussi avoir comme ancêtre commun de leur chromosome Y, puisque ce sont des garçons, un chromosome Y qui vient de Charles Darwin. Or, manque de chance, Madame de Staël et Charles Darwin ont vécu dans d'autres lieux, dans des lieux différents, à des périodes différentes. Encore que cet exemple est peut-être mal choisi, car Madame de Staël a pu rencontrer le petit Darwin âgé de 8 ans lorsqu'elle a quitté ce monde. Donc, généalogie différente, gène différent signifie généalogie différente. Et la question, elle en est toujours là, c'est-à-dire qu'on cherche à reconstituer des généalogies de nombreux gènes. Enfin, l'ADN mitochondrial et le chromosome Y sont des gènes un petit peu rêvés, car ce sont des systèmes monoparentaux, c'est-à-dire transmis soit par une lignée féminine, soit par une lignée masculine, ce qui est beaucoup plus pratique pour la reconstitution de ces généalogies. Mais quoi qu'il en soit, on n'en est pas encore arrivé à reconstituer l'histoire généalogique unique de l'humanité qui permette d'expliquer toutes ces généalogies de gènes particulières. Maintenant, et ce sera le dernier point de mon exposé, je parlerai un petit peu des approches qui sont très en vogue aujourd'hui, mais aussi très prometteuse, qui est la confrontation des données de la génétique avec celles de la linguistique historique et de l'archéologie. Mary Trulon est un éminent linguiste américain, disciple du non moins éminent Joseph Greenberg, et Mary Trulon est convaincue de l'origine unique de toutes les langues humaines parlées à l'heure actuelle. Il en est même arrivé à proposer 27 racines universelles que je vous ai retranscrites ici sur cette diapositive. Évidemment, cette hypothèse fait grincer des dents de nombreux linguistes, mais malgré cela, il faut reconnaître le travail de Mary Trulon, car il a fait un travail de titan qui a consisté à regrouper toutes les langues parlées aujourd'hui. On estime entre 5000 et 6000 le nombre de langues humaines à l'heure actuelle, avec des incertitudes, à l'intérieur de familles, de super-familles, de super-super-familles, de manière à réduire d'abord à 17, puis à 12, le nombre de super-familles linguistiques qui seraient justifiées d'un point de vue des apparentements entre les langues qu'elles contiennent. À partir de cette... Donc voilà, ici... Par exemple, vous connaissez tous l'indo-européen qui lui-même regroupe un ensemble de langues parlées en Europe. L'indo-européen serait, lui, apparenté à la famille de langues ouraliques parlées dans le nord de l'Europe et dans l'Oural. Et ces familles de langues seraient elles-mêmes apparentées aux familles de langues altaïques parlées en Asie du Nord-Est, elle-même apparentée aux familles de langues Tchouktchi-Kamchatka. Et comme cela, petit à petit, on réduit le nombre de familles linguistiques à un très petit nombre. La question que l'on peut poser maintenant, donc c'est une approche qui est totalement différente de l'approche génétique, mais dans le fond qui se ressemble un petit peu, parce qu'il s'agit d'étudier les langues parlées à l'heure actuelle entre les populations, et de reconstituer des phylogénies de langues, en quelque sorte, donc de reconstituer les familles de langues pour essayer de voir à partir de quand elles se sont différenciées. Donc l'approche ressemble fortement à l'approche génétique que je vous ai expliquée tout à l'heure. Alors la question est de savoir est-ce que la diversité linguistique des populations a quelque chose à voir avec la diversité génétique des populations. André Langanet a été très intuitif il y a une quinzaine d'années et m'a placé sur la piste pour essayer de reconstituer la carte génétique de l'Afrique subsaharienne et d'essayer de voir si on pouvait établir une correspondance entre cette diversité génétique et la diversité linguistique des populations. Vous avez ici une carte linguistique de l'Afrique avec quatre grands phylums que l'on distingue habituellement, enfin que l'école de Mary Trulon et de Joseph Greenberg distinguent. Et en étudiant la diversité génétique non seulement au Sénégal, mais dans l'ensemble des populations d'Afrique subsaharienne, il est possible de reconstituer une carte génétique, une carte des apparentements génétiques entre les populations. C'est une carte qui ressemble à celle de tout à l'heure, que je vous ai montrée tout à l'heure, qui se superposait à la géographie, mais ici elle se superpose en fait aux grandes familles linguistiques. Plus exactement, il est possible de superposer les grandes familles linguistiques sur la carte génétique des populations. C'est une correspondance étonnante, là il s'agit du système GM des immunoglobulines, c'est-à-dire que deux populations qui parlent des langues qui parlent des langues appartenant à la même famille linguistique ont plus de chances d'être apparentés génétiquement que des populations qui parlent des langues appartenant à des familles linguistiques différentes. Tout cela mérite d'être interprété, évidemment, mais avant cela, je parlerai aussi de l'archéologie, car les archéologues sont venus se mêler à toute cette histoire pour essayer d'y comprendre également quelque chose. Donc d'abord, je parlerai de certains résultats relatifs à l'Europe, et qui est une carte des sites occupés par les agriculteurs il y a environ 10 000 ans, en Europe. Donc c'est une carte établie par un archéologue à Merman dans les années 80 qui a donc montré que les sites néolithiques en Europe, les plus anciens se retrouvaient, étaient localisés au Proche-Orient, et plus on avançait vers l'Europe du Nord-Ouest, plus on trouvait des sites récents, ce qui suggérait une diffusion de l'agriculture partant du sud-est jusqu'au nord-ouest de l'Europe. Ammerman a travaillé en compagnie de Luca Cavalli-Sforza, et Cavalli-Sforza a également établi une carte génétique de l'Europe sur la base de comparaisons de nombreux systèmes génétiques. Et ce qu'il a trouvé correspondait, en tout cas il s'est arrangé pour montrer, visualiser des correspondances assez remarquables entre les deux cartes, c'est-à-dire qu'en Europe, on observe des gradients de fréquence des gènes qui partent du sud-est et qui vont jusqu'au nord-ouest de l'Europe. Donc il existe une correspondance, ou en tout cas, on peut se poser la question, et si les gradients de gènes observés aujourd'hui en Europe reflétaient l'histoire des migrations des agriculteurs? Parce que la question était de savoir si l'agriculture avait diffusé en Europe par ce qu'on appelle une diffusion culturelle, simplement, qui est de diffuser une technique de proche en proche sans que cela implique des mouvements de population, ou si la diffusion de l'agriculture en Europe avait été faite par des agriculteurs qui avaient migré, qui s'étaient déplacés. Donc la génétique, elle, en montrant qu'il existait des gradients de fréquence génique entre les populations actuelles, suggérait que c'était la signature des migrations de ces agriculteurs en Europe. Et d'autres personnalités, comme l'archéologue Colin Renfrew, un archéologue anglais, ont cherché à intégrer l'ensemble des disciplines linguistiques, archéologie et génétique dans des mêmes scénarios pour proposer non seulement que les signatures génétiques que l'on observe aujourd'hui en Europe, par exemple, sont celles des agriculteurs qui ont migré lorsqu'ils ont inventé l'agriculture, mais aussi que ce sont ces agriculteurs qui ont diffusé les langues, comme les langues indo-européennes, par exemple, parlées à l'heure actuelle en Europe. Colin Renfrew a donc proposé ce type de modèle qui propose une correspondance entre la diffusion des langues, comme ici l'indo-européen, l'afro-asiatique et l'altaïque, à partir d'une région centrée sur le Proche-Orient, une correspondance entre cette diffusion des langues et les diasporas des agriculteurs dans les différentes régions géographiques, à partir, en l'occurrence, d'un des centres d'invention de l'agriculture, qui est le croissant fertile. En d'autres termes, ces migrations, ces mouvements de population qui auraient eu lieu il y a approximativement 10 000 ans, enfin à partir de 10 000 ans, qui représenteraient les mouvements de population des agriculteurs ayant diffusé les langues, auraient profondément marqué notre patrimoine génétique. Et c'est ce que nous observerions à l'heure actuelle essentiellement lorsque nous comparons les populations humaines entre elles. Évidemment, bon, là c'est une carte qui vous montre simplement que les recherches continuent, c'est-à-dire que je vous ai montré tout à l'heure l'exemple sur l'Europe, mais évidemment, il y a d'autres centres d'invention de l'agriculture dans le monde et qui méritent évidemment d'être étudiés aussi sur le plan génétique et linguistique et archéologie pour essayer de reconstituer l'histoire des 10 000 dernières années en quelque sorte. Maintenant, reste à expliquer un dernier point, c'est pourquoi est-ce que ces mouvements de population ont marqué le patrimoine génétique humain des populations actuelles. Il faut pour cela parler un petit peu de démographie, à savoir que lorsque les populations sont passées d'un stade chasseur-cueilleur à un stade agriculteur, ce changement de mode de vie s'est accompagné de la sédentarisation des populations, de la possibilité d'augmenter en effectif, donc de croissance démographique, et des reconstitutions comme celles-ci qui sont reprises de Birabin suggèrent qu'il y a au paléolithique moyen, la population humaine mondiale était de l'ordre de moins d'un million d'individus sur toute la planète, et puis que la transition du paléolithique récent aurait amené l'effectif de cette population à près de 10 millions. Et puis, lors du néolithique, à ce moment-là, on aurait assisté à un véritable boom démographique se serait accompagné de migration des populations dans les différents continents. Donc, par un effet du nombre, ces migrations qui se sont effectuées il y a 10 000 ans environ ont marqué beaucoup plus le patrimoine génétique des populations actuelles, dans des populations ensuite qui sont devenues les populations actuelles, beaucoup plus que les populations de chasseurs-cueilleurs. En quelque sorte, je m'avance peut-être un petit peu, mais c'est une interprétation. En quelque sorte, le premier mouvement de globalisation des populations à travers le monde qui représentait les chasseurs-cueilleurs qui migraient dans les différents continents, peut-être retrouvé dans ce que l'on observe à l'heure actuelle au niveau des corrélations entre les différences génétiques, les différenciations génétiques et géographiques à l'échelle mondiale. C'est-à-dire quand j'ai superposé tout à l'heure la carte génétique sur une carte géographique et que ça collait très bien, en quelque sorte, c'est le reflet de probablement des premières migrations des populations à travers le monde. Mais plus tard, évidemment, lorsque l'on étudie plus spécifiquement l'histoire du peuplement de l'Afrique, par exemple, eh bien, on ne va plus retrouver très précisément cette corrélation avec la géographie, mais plutôt avec les différenciations linguistiques des populations qui peuvent être le reflet des migrations qui se sont passées beaucoup plus tard, à partir de 5 000 ans avant le présent. Donc, il y aurait un mouvement de repeuplement du globe qui, lui, a marqué, lui aussi, les patrimoines génétiques des populations actuelles. Pour conclure, je dirais que lorsque j'ai été invitée à donner une conférence à l'Université de Tous les Savoirs dans le cadre d'un cycle sur la globalisation, je me demandais bien ce que je pourrais bien y raconter. Et puis, finalement, en préparant mon exposé, et en parlant de globalisation à plusieurs périodes de la préhistoire, je me suis aperçue que finalement mon travail de recherche consistait avant tout à étudier ces phénomènes de globalisation. Donc je remercie l'Université de Tous les Savoirs de m'avoir ouvert les yeux sur mes choix scientifiques. Et merci de votre attention.
La question est la suivante, quels sont les moyens de datation à ce jour et quel degré de fiabilité on peut leur accorder ?
Oui, les moyens de datation, c'est difficile parce que on a des moyens qui vont dépendre énormément des hypothèses de départ que l'on propose. Lorsque vous reconstruisez une généalogie de gènes, comme moyen de datation, vous allez utiliser la théorie des horloges moléculaires qui consiste à considérer une date soi-disant connue d'un embranchement entre deux espèces éloignées et de regarder le degré de différence génétique entre ces deux espèces en considérant donc que cette date de différenciation est connue sur la base de matériel fossile par exemple, ce qui vous permet ensuite de supposer, si on considère un taux de mutation constant au cours du temps, eh bien on va calibrer une généalogie génétique sur la base en faisant le parallèle entre les datations et le nombre de différences observées entre chaque espèce. Donc ça, c'est une méthode qui est utilisée pour dater des arbres phylogénétiques, des arbres de gènes. Mais évidemment, cela va dépendre énormément, d'une part, de ce qu'on utilise comme critère pour calibrer cette horloge, c'est-à-dire des dates utilisées préalablement pour calibrer cette horloge. Et par ailleurs, cela dépend évidemment du postulat, de l'hypothèse, de la théorie des horloges moléculaires, hein, qui dans certains cas ne se confirme pas. Donc il y a de gros problèmes dans les datations, effectivement. C'est pour cela que bien souvent on a recours à des données d'autres disciplines comme la paléontologie pour essayer d'avoir des repères au moins temporels pour les différenciations des populations.
En fait, donc, j'avais deux petites questions qui étaient soulevées par votre exposé. La première, en parlant des migrations à partir du noyau africain, et on considère bien aujourd'hui que le patrimoine génétique des hominidés est venu d'Afrique, c'est-à-dire que, et qu'il y aurait éventuellement, non pas une, mais des migrations qui seraient parties de ce continent et qui auraient ensuite progressivement, par vagues successives, fait la conquête du reste de la planète. Notamment, justement, il y a eu ce conflit qui a existé en Europe entre le néandertalien et l'homo sapiens, les deux étant issus d'Afrique, en fait. Donc, et ensuite, on peut même remonter plus loin, puisqu'il y a jusqu'au Pongidé, les fameux orang-outans d'Asie, qui seraient en fait eux-mêmes descendants d'un ancêtre africain qui aurait migré à l'époque où la continuité des forêts le permettait entre l'Afrique et l'Asie. Enfin, ça, je voudrais avoir des éclaircissements sur cette question-là. Un aspect intéressant que vous avez soulevé en tout début d'exposé, vous avez dit qu'on a trouvé un fossile en Crète, ça je ne savais pas, qui a moins 50 000 ans. Et vu la situation géographique de la Crète, c'est quand même très intéressant, ça sous-entendrait qu'il y a 50 000 ans, des gens avaient la capacité de faire de la navigation au grand large, si je puis dire, puisque la Crète est quand même éloignée de pas mal de centaines de kilomètres de toute côte. Donc ça sous-entendrait une capacité de navigation, alors que dans le reste des migrations, c'était plutôt des migrations à pied.
Tout à fait. Bon, pour d'abord répondre ou faire une remarque à propos de votre deuxième remarque. Bon, c'est une calotte crânienne qui a été découverte en Crète. Bon, je ne suis pas paléontologiste pour interpréter ce fossile-là, mais bon, c'est une date, la date la plus ancienne qui a été avancée. Cela dit, il faudrait encore confirmer qu'il s'agit bien d'un homo sapiens sapiens. Par ailleurs, pour votre première remarque, j'en ai parlé des différents scénarios. Il y a effectivement différents scénarios, comme vous avez vu les titres de journaux, Out of Africa, Again and Again. Il y a plusieurs hypothèses, mais il est difficile de faire la part des choses à l'heure actuelle, parce que selon les systèmes génétiques que l'on va étudier, on va trouver une plus ou moins grande diversité génétique dans les populations africaines, par exemple. On a souvent dit que les populations africaines étaient les plus diversifiées génétiquement, et donc que cela démontrait leur ancienneté. Cela dit, il y a une autre explication pour une grande diversité génétique des populations, c'est qu'elles étaient plus nombreuses. Le fait d'avoir une population nombreuse permet aussi d'accumuler des mutations et une diversité génétique. Donc là, il faut un petit peu remettre les résultats à leur place, si je peux dire, pour essayer de relativiser et de ne pas se focaliser essentiellement sur cette origine africaine de l'humanité. D'autres résultats, comme ceux relatifs à l'étude des molécules d'hémoglobine, c'est des résultats produits par la chercheuse Rosaline Harding, montrent par exemple qu'il y a autant de diversité génétique en Afrique qu'il y en a en Asie. Donc là aussi, c'est un résultat qui mérite d'être discuté. Voilà ce que je peux vous répondre pour cette question-là.
S'il vous plaît, vous nous avez parlé donc de l'ADN des mitochondries, ce qui est très intéressant. Il semblerait donc que les mitochondries soient, je crois, des bactéries, en quelque sorte, intégrées dans la cellule. Mais est-ce que cet ADN, en dehors de l'oxygénation, est-ce qu'elle a un pouvoir, si vous voulez, déjà d'influer sur l'ADN général du noyau, est-ce qu'il a une influence sur l'évolution elle-même de l'être humain ou de notre espèce, mais surtout de l'être humain, puisqu'on est en train de parler de l'être humain?
Eh bien, je vous répondrai par des études relativement, à la fois récentes et anciennes. Peut-être je suis à côté de la question, mais ça me fait penser en tout cas à des études relatives à cet ADN mitochondrial, parce qu'on a, du fait qu'il était très pratique d'étudier cette molécule qui était transmise de manière monoparentale, eh bien, il y a eu des milliers d'études qui ont concerné cette molécule. Et pourtant, il est possible que des phénomènes de sélection naturelle agissent au niveau de cette molécule. C'est-à-dire que l'ADN mitochondrial pourrait avoir évolué non pas seulement sous l'influence par des mécanismes de migration de populations à travers le monde, donc ne reflèterait pas seulement les différenciations des populations lors des migrations à travers le monde, mais pourrait refléter éventuellement certaines adaptations à des environnements. Par exemple, l'équipe de Douglas Wallace aux États-Unis propose un modèle d'évolution de cet ADN mitochondrial soumis à des influences environnementales, climatiques ou d'adaptation au froid et de résistance à certaines pathologies. Donc là, j'en ai pas parlé dans mon exposé, mais ce sont des études qui là encore méritent une attention, parce que effectivement, si la molécule d'ADN mitochondrial aurait subi des influences de la sélection naturelle, elle ne serait plus une bonne candidate pour refléter l'histoire des migrations des populations à travers le monde.
En fait, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que vous avez parlé, parce que c'était très lié à l'origine du monde, la paléontologie, l'histoire, en fait. Et moi, j'aurais souhaité vous parler un peu des maladies génétiques, le fait qu'il y ait des points communs entre différents lieux du monde, enfin, les cancers, par exemple. Il y a certains cancers qui ont des origines génétiques. Donc, il y a des travaux qui se font de part et d'autre à travers le monde.
Oui, non, mais c'est très intéressant. Là, effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est en train de se développer à l'heure actuelle, qui est d'étudier les maladies et les réponses, par exemple, des populations, les différences génétiques entre les populations liées à l'histoire des maladies. Moi, je ne suis pas à l'heure actuelle spécialiste du sujet, mais je peux vous dire que c'est une discipline qui est en plein essor.
Dans ces migrations, c'est toujours très intrigué, les migrations par le détroit de Bering, elles ont été tardives, et puis le néolithique est arrivé. Soit il a été importé par une migration tardive, peut-être vers 6000, ou alors carrément spontanément.
On pense qu'il y a une origine indépendante de l'agriculture, ou même plusieurs en Amérique, en territoire américain.
Oui, oui. Oui, ça veut dire qu'il y
avait... en Mésoamérique et dans la région des Andes, il y aurait eu des inventions parallèles de l'agriculture.
Ils les ont inventées en parallèle avec,
oui,
avec les autres. Ils ont inventé les pyramides, enfin, etc.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas forcément si enfin.
Oui. Ça veut dire que
c'est sûrement extraordinaire.
Ça veut dire que c'était préexistant, c'était en train d'accoucher.
Oui. Non, mais il y a eu dans l'ancien monde aussi plusieurs centres d'invention de l'agriculture qui semblent être totalement indépendants.
Je voulais savoir si les mutations génétiques, elles étaient uniques et en un lieu et un moment, ou est-ce que la même mutation, on peut la retrouver à divers endroits du globe, voilà.
Oui, vous pouvez tout à fait la retrouver à divers endroits du globe. D'ailleurs, il y a des sites, si l'on étudie le génome de près, il y a des sites qui mutent beaucoup et d'autres moins. Et donc, il peut y avoir effectivement plusieurs origines indépendantes des mutations. C'est ce qu'on suppose, par exemple, pour les mutations qui ont trait à l'anémie falciforme. Qui est une mutation de la chaîne bêta de l'hémoglobine, il est possible qu'il y ait eu plusieurs origines indépendantes de la même mutation.
J'ai lu il y a assez longtemps que les Indiens d'Amérique du Sud étaient tous du groupe O. Est-ce exact? Et comment expliquez-vous ça, si c'est exact?
Oui, la plupart des populations d'Amérique du Sud sont effectivement du groupe sanguin O. aurait perdu les variantes A et B. C'est l'interprétation qu'on donne. J'ai parlé tout à l'heure, quand il y avait une question sur le peuplement de l'Amérique, du passage par le détroit de Bering, avec les mécanismes d'effet fondateur. L'effet fondateur, c'est un mécanisme de tirage aléatoire d'un petit nombre d'individus parmi une population plus nombreuse. Et lorsque vous effectuez ce tirage, si vous avez des variantes génétiques rares dans la population de départ, vous avez beaucoup de chances de perdre ces variantes rares dans la population qui en est dérivée et qui est de petit effectif. Donc c'est l'explication qu'on donne pour la fixation, c'est le terme en jargon génétique, la fixation de l'allèle, de la variante génétique O dans les populations amérindiennes.
Quelle est l'influence des groupes sanguins qu'on a pu retrouver, notamment la participation HLA, sur l'ensemble du globe? Parce que ça pourrait expliquer les... Là, vous avez répondu en partie à la question à cause du groupe A, du groupe O. Mais c'est des choses qu'on trouve, on trouve des groupes et des sous-groupes au fur et à mesure de l'ensemble des populations. Alors qu'est-ce qu'au point de vue génétique, qu'est-ce que ça vous fait appel, si vous voulez? Est-ce que ça apporte de l'eau à votre moulin ou ça complique le problème? C'est ça ma question. Parce que ça, c'est un problème très important pour quand, étant donné la mondialisation, qu'on peut être amené à s'occuper à des gens... moi, je suis infirmier d'éthique, j'ai été amené à transfuser des gens de différentes populations, de savoir qu'on peut être appelé à avoir des groupes, des sous-groupes, pour lesquels il faut tenir compte, notamment l'histoire HLA. C'est ça ma question.
Bon, la question des groupes et des sous-groupes, c'est pas une vue de l'esprit, mais une vue de la technique, en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsque l'identification des groupes et des sous-groupes, si j'ai bien compris votre question, va dépendre fortement de la technique que vous utilisez pour détecter la variabilité génétique. Les groupes HLA ont d'abord été détectés par des techniques indirectes, c'est-à-dire au niveau cellulaire. On a testé les variantes du système HLA en étudiant leur expression au niveau cellulaire. Plus tard, on est passé à des techniques beaucoup plus sophistiquées qui ont permis d'identifier la variation génétique HLA directement au niveau de l'ADN. Et c'est là, évidemment, qu'on s'est aperçu que la variation moléculaire au niveau de l'ADN était beaucoup plus importante que ce qu'on était capable de détecter par des techniques indirectes. Donc, finalement, groupe sous groupe, c'est un petit peu une vue de l'esprit, enfin, une vue de la technique, plus précisément. Selon à quelle échelle on se place, ça peut être intéressant d'étudier la divergence ou la différenciation des populations au niveau du groupe, ou bien ça peut être intéressant d'aller un petit peu plus en profondeur et de regarder ce qui se passe au niveau des sous-groupes. Je ne vous cacherai pas qu'au niveau des sous-groupes, ça peut devenir tellement compliqué que des fois, on préfère les groupes aux sous-groupes.
Merci, Madame Alicia Sanchez-Mazas.